Chapitre 37. Quelques jours après les funérailles de Burton, tout était préparé pour le départ de Jem, dont l'époque était prochaine. Restait néanmoins l'obstacle le plus sérieux à vaincre, celui que probablement apporterait Mistress Wilson à ce projet d'exil qu'on ne lui avait pas encore soumis. Un soir que la veuve paraissait d'un calme inusité, Jem saisit l'occasion de tout avouer à sa mère, qui, à sa grande surprise, accueillit avec joie la proposition qui lui faisait de partager leur nouvelle existence. « Assurément, c'est un voyage, » dit-elle, « que d'aller en Amérique. Un bon bout de chemin de l'autre côté de Londres, je suppose, et tout à fait à l'étranger. Mais je n'ai plus bonne opinion de l'Angleterre, depuis qu'on y est assez bête pour prendre un garçon rangé comme toi et pour le mettre en prison. Où tu iras, j'irai. Peut-être que là-bas, ils sauront reconnaître un honnête homme à sa bonne mine. Ainsi donc, n'en parlons plus. Je vais avec toi. » Leur sentier devenait chaque jour plus facile et plus uni. Le présent n'offrait nul embarras, et l'avenir était rempli d'espoir. Ils pouvaient, sans amertume, se reporter au passé. Un soir qu'ils en parlaient tous les deux, à côté de Marguerite, « Jem, se prit à dire Mary, tu ne m'as jamais expliqué comment tu avais su mes folies avec Mr. Carlson ?»« Mon Dieu, mignonne, j'ai presque regret de te l'avouer. C'est ta tante Esther qui m'en avait parlé. »«
Ah, c'est vrai, je me rappelle qu'elle me l'a dit. Mais ce que je ne sais pas, car j'étais si troublée que je ne lui ai pas demandé, c'est comment elle avait pu le savoir. Où l'avais-tu donc rencontrée ? Je ne sais plus où elle demeure. »
L'aisance avec laquelle Mary parlait d'Esther prouvait à Jem qu'elle ignorait complètement la position de la pauvre fille. « Mais tu ne m'avais pas dit que de ton côté tu l'avais vue, » reprit-il.
« Oh, c'est pendant cette nuit horrible dont le souvenir m'est resté comme celui d'un mauvais rêve. »
Elle raconta la visite qu'Esther lui avait faite et conclut ainsi.
« Nous irons la voir avant de partir, n'est-ce pas ? Mais je ne me rappelle plus le nom de l'endroit qu'elle habite. »
« Chère Mary,
quoi donc, Jem ? »
s'écria-t-elle tout effrayée.
« Ta pauvre tante n'a pas de demeure. C'est l'une de ces misérables créatures qui courent les rues au soir. »
Et à son tour, il raconta son entrevue avec Esther.
« Il faut que nous la cherchions, » lui dit aussitôt Mary en se levant pour partir.
« Mais que pouvons-nous faire pour elle, ma chérie ?
La retrouver, la prendre avec nous et l'emmener. Pauvre tante. C'est précisément l'heure où elle doit être dehors. Ne me retiens pas, Jem, laisse-moi. Je veux aller la chercher. »
« Attends un peu, Mary. J'y vais si tu le désires. Quoi que ce soit presque inutile. Mieux vaudrait prendre des renseignements. Et, en supposant que je la trouve, comment la faire venir ? Elle me l'a déjà refusée parce que, disait-elle,
tu ne la persuaderas jamais si tu doutes de réussir, »
dit Mary en pleurant.
« Espère d'abord et confiance au bien qui est en elle. » « Adresse-toi à son cœur. Oh, je t'en prie, ramène-la, et nous l'aimerons tant qu'elle redeviendra honnête. »
« Tu as raison, » répliqua Jem, entraîné par Mary. « Nous l'emmènerons en Amérique, où elle oubliera ses fautes. Je pars tout de suite, et si je ne la trouve pas, j'irai demain à la police. » Jem erra toute la nuit sans rencontrer Esther. Le lendemain, il alla au renseignement, comme il l'avait promis. D'après le signalement qu'il donna aux agents, on lui désigna une fille connue sous le nom de Papillonne, à cause de la couleur des vêtements qu'elle portait à l'époque où ce nom lui fut donné. Il finit, à force de recherche, par découvrir l'un de ces garnis immondes où s'abritent les vagabonds de toute espèce. Lui et son compagnon, un brave policeman qui l'avait dirigé dans cette enquête, furent introduits par l'hôtesse dans un grenier où, pendant le jour, 20 ou 30 personnes de tout âge, hommes et femmes, venaient sommeiller tant bien que mal, réservant le soir et la nuit pour leur triste métier de mendiant, de voleur ou de prostituée. « La Papillonne, dit la logeuse, est venue ici dans la nuit d'avant-hier, en disant qu'elle n'avait pas un penny pour payer son coucher. Si j'étais dans la campagne, ajoutait-elle, je me retirerais dans un fourré ou bien dans un ravin pour y mourir. Mais ici la police ne laisse pas aller une personne seule dans les rues pendant la nuit, et j'ai besoin d'un endroit pour y finir en paix. C'est une drôle de paix que nous avons dans cette chambre, mais la pièce était moins pleine qu'à l'ordinaire. Je n'ai pas le cœur dur, et c'est dommage, car j'aurais pu faire d'assez bons coups si j'étais moins sensible. Je l'ai donc laissé monter. Cependant, je ne la vois pas, et je crois qu'elle n'y est plus.
Est-ce qu'elle était malade ?
Demanda Jem. Un vrai squelette, rien que la peau, les os, et une toux qui la coupait en deux. Ils questionnèrent les gens qui se trouvaient là, et qui avaient vu Papillonne. On leur répondit que, se sentant près de mourir, elle avait eu besoin d'air et s'était traînée dehors, sans qu'on pût savoir où elle était allée. Jem était venu rendre compte à Mary du triste résultat de ses recherches. Ils étaient seuls dans l'ancienne chambre des Burton, que Mary devait quitter le surlendemain pour aller chez Job Legh jusqu'au jour de son mariage. Ils avaient causé longtemps. Une douce rêverie succédait à leurs paroles. Jem entourait de son bras la taille de la jeune fille dont la tête reposait sur son épaule. Tout à coup, Jem tressaillit et se leva. Mary chercha sur le visage de son fiancé quelle pouvait être la cause de cette émotion soudaine. Il faisait déjà sombre. Elle ne put distinguer l'expression de ses traits, mais son regard était tourné vers la fenêtre, où une figure pâle, collée aux vitres, regardait fixement dans l'intérieur de la chambre. Puis un nuage passa sur ses yeux ardents, et le bruit d'un corps tombant sur le pavé se fit entendre. « Esther !» dirent à la fois les deux jeunes gens qui se précipitèrent dans la cour où la pauvre Papillonne gisait sans mouvement et peut-être sans vie. Elle était revenue, comme le daim blessé qui se traîne pour mourir jusqu'à la reposée natale, revoir les lieux où s'était écoulée son enfance. Job et Marguerite rentraient chez eux. Jem et le fileur portèrent l'infortuné sur le lit de Mary, qui avait été le sien. Elle respirait encore. Job s'agenouilla près du lit et pria pour elle avec ferveur. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle regarda autour d'elle et reconnaissait la chambre qu'elle occupait jadis, et tout ce qui autrefois lui avait été familier.
« Ai-je donc rêvé ? »
demanda-t-elle avec égarement. Sa main avait rencontré le médaillon qu'à cette heure suprême elle cherchait instinctivement, relique précieuse cachée sur son cœur et qui contenait des cheveux de son enfant. Elle comprit que ce n'était pas un songe, que cet affreux cauchemar avait été sa vie, et portant le médaillon à ses lèvres, elle y mit un long baiser, versa quelques larmes et mourut l'instant d'après. Ils la déposèrent dans la même fosse que Burton, sans un nom, sans une date, sans rien autre chose sur la pierre qui les couvre que ces paroles du psalmiste. Il ne sera pas toujours irrité et cessera de faire entendre les menaces de sa colère. Une maison de bois longue et basse, suffisamment grande, s'élève au milieu d'un terrain nouvellement défriché. Un arbre séculaire est seul resté debout afin de protéger le seuil de son ombre. Un jardin entoure la maison. Un verger vient ensuite. Le radieux éclat d'un beau jour, de ceux qui forment ce qu'on appelle en Amérique l'été indien, colore ce lieu béni et le revêt de sa beauté magique. Sur la porte est Mary. Elle attend Jem. La journée va finir, c'est l'heure où les ateliers se ferment, où l'artisan vient retrouver sa famille. Elle regarde le sentier qui conduit à la ville et sourit en écoutant une voix cassée qui chante.
« Petit, bâton des mains, voilà papa qui revient, rapportant à la brune un gâteau et des prunes, pour son petit gamin. »
Johnny fait entendre un cri de joie. Sa grand-mère la porte sous le vieil arbre et triomphe en voyant qu'il résiste aux caresses de Mary et ne veut pas la quitter. « Des lettres d'Angleterre, c'est là ce qui m'a retardé.
Oh, Jem, ne les tiens pas si fort, donne-les-moi, que disent-elles donc ?»«
Devine, cherche un peu, de bonnes nouvelles. » »«
Non, dis-moi, je ne sais jamais deviner. » »«
Et vous, mère, qu'en dites-vous » Jeanne réfléchit un instant. « Will et Marguerite sont mariés, » dit-elle.
« Pas encore, mais bientôt.
Petite maman n'a pas eu autant d'esprit que grand-mère. À ton tour, Mary, que devines-tu » Il mit sa main sur les yeux du petit Johnny.
« Voir !»
balbutia l'enfant, en repoussant la main de son père. « Et à présent ?» dit Jem.
« Marguerite n'est plus aveugle !»
s'écria Mary.
« Tout juste ! On lui a fait une opération. Elle voit comme autrefois. C'est le 26 du courant qu'elle se marie. Will doit nous l'amener à son premier voyage, et le vieux Job part de l'accompagner. Non pas pour le plaisir de te voir, Mary, ni moi, ni ma mère, pas même vous, mon petit héros chéri, dit-il en embrassant Johnny, mais pour se procurer quelques spécimens d'insectes canadiens, à ce que nous marque Will. Une visite de politesse au perce-oreille de notre pays. « Cher et bon Job !» dit Mary avec une émotion profonde.